Il y a quelques semaines, on a eu la chance, le privilège de voyager avec Ingrid, Nicolas et Nathan sur la côte sud-ouest de la Turquie. Et de là, nous avons pu rayonner et l'une de nos excursions nous a amené sur le site archéologique de l'ancienne cité d'Éphèse. La ville d'Éphèse, pour nous chrétiens, elle ne nous est pas indifférente puisque on la mentionne à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Éphèse était un centre commercial, économique, politique et spirituel assez important. C'est une ville qui a été fondée par les Grecs vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, bien que certaines sources parlent d'une date plus ancienne encore, en référence à l'étymologie du nom d'Éphèse, qui fait allusion à un peuple qui vivait bien avant l'an 1000, encore avant Jésus-Christ. Elle était l'une des cités antiques les plus peuplées, avec ses 250 000 habitants. C'était la deuxième la plus peuplée après la ville d'Alexandrie. C'était aussi, à l'époque de l'Empire romain, la capitale de l'Asie mineure. On y trouvait une rue principale, qu'on appelait une voie, la rue des Courettes. Les Courettes, c'était des dieux secondaires dans l'Empire romain. Et cette voie pavée de marbre blanc était jalonnée de commerces et d'ateliers d'artisans, et elle menait vers une gigantesque bibliothèque magnifique au demeurant. C'était la bibliothèque de Celsus. Il y avait aussi dans cette ville d'Éphèse un magnifique amphithéâtre en hémicycle, en demi-cercle, dont l'acoustique, paraît-il, était exceptionnelle et qui pouvait contenir environ 25 000 personnes. Mais le fleuron de la ville d'Éphèse, le joyau de la ville d'Éphèse, c'était bien sûr l'Artémision, ou le temple d'Artémis, ou le temple de Diane, selon qu'on est romain ou grec. Et d'ailleurs, dans certaines versions, il est question, dans certaines versions du texte que nous allons lire, il est question du temple de Diane plutôt que du temple d'Artémis. Artémis, qui était la déesse de la lune, la déesse de la chasse, la déesse de la fertilité, protectrice des femmes enceintes. Alors, ce temple était quatre fois plus imposant, quatre fois plus grand que le Parthénon, et il avait cette particularité d'avoir été détruit à sept reprises en 10 siècles, donc en 1000 ans, par des séismes, par des incendies, ou encore par des invasions ennemies. Il ne reste plus aujourd'hui de ce temple que quelques colonnes qui sont restées debout. Il mesurait 155 mètres de long, 60 mètres de large, et était composé de 127 colonnes sculptées et recouvertes d'or. C'était un édifice architectural impressionnant, somptueux. Il faisait d'ailleurs partie de l'une des sept merveilles de l'Antiquité, du monde antique. Antipater de Sidon, le poète grec qui a établi la liste des sept merveilles du monde antique, considère le temple comme la plus belle des merveilles. Et il écrit ceci, c'est à titre informatif bien évidemment, « J'ai contemplé les murs de l'arbre Babylone sur lesquels courent les chars et le Zeus des rives, donc la statue de Zeus, des rives de l'Alphée, ainsi que les jardins suspendus, toujours de Babylone, et le colosse d'Hélios, et l'imposant travail des hautes pyramides et le gigantesque tombeau du mausolée. Mais quand je vis la demeure sacrée d'Artémis, écrit-il, qui s'élève jusqu'aux nues, tout le reste fut rejeté dans l'ombre et je dis, vois, mis à part l'Olympe, le soleil n'a jamais encore contemplé quelque chose de tel. On va lire dans la parole de Dieu, beaucoup plus importante, dans le livre des Actes, un passage que nous avons déjà lu à travers l'étude du mardi, au chapitre 19. Et à partir du verset 23. Actes, chapitre 19, et à partir du verset 23. Nous lirons jusqu'à la fin du chapitre. Nous sommes à Éphèse. À ce moment-là, survinrent des troubles assez graves au sujet de la voix du Seigneur. Un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans un profit considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit : Vous tous, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce pôle a persuadé et détourné une assez grande foule en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter du discrédit sur notre profession, mais encore de réduire à rien le temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de son prestige celle qui a toute l'Asie et le monde entier rend un culte. Verset 28. À ces paroles, remplies d'une fureur, ils se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent d'un commun accord au théâtre et entraînèrent avec eux les Macédoniens Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Même quelques-uns des Asiarques, qui étaient ses amis, c'était des magistrats retraités, lui envoyèrent des messagers pour l'exhorter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns crièrent d'une manière, les autres d'une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait un signe de la main et voulait se défendre devant le peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures : Grande est la déesse Artémis. Cependant, le secrétaire calma la foule et dit : Éphésiens, quel est l'homme qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel ? Il pensait effectivement, pour renforcer la dévotion de cette idole, qu'elle avait été envoyée de Zeus lui-même depuis l'Olympe. Puisque cela est incontestable, vous devez vous tenir calme et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont ni sacrilèges voleurs, ni voleurs sacrilèges, ni blasphémateurs envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses artisans qui sont avec lui ont un grief contre quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans l'assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de rendre compte de cet attroupement. Cela dit, il congédia l'assemblée. Nous sommes en l'an 53 de notre ère. En l'an 53 après Jésus-Christ. J'essaie de faire un effort parce que je vois que Jacques tend l'oreille. On va essayer de parler un petit peu plus fort. L'apôtre Paul va entamer son troisième voyage missionnaire depuis la ville d'Antioche en Cilicie. C'est le plein été. Il va parcourir les montagnes, les vallées, les plaines, sous une chaleur parfois qui dépasse les 40 degrés. Pour la cause de l'Évangile, Paul va parcourir 1100 kilomètres à pied pour aller jusqu'à la ville d'Éphèse où il va séjourner pendant 3 ans. 1100 kilomètres à pied. Comme à son habitude, Paul commence à prêcher dans les synagogues. Dans un premier temps, les Juifs vont l'écouter avec attention, mais après 3 mois, à cause de dissensions ou de tensions diverses, Paul devra quitter la synagogue et va continuer son enseignement dans l'école d'un certain Tyrannus, peut-être un converti, qui va mettre à sa disposition les locaux de l'école pour qu'il puisse enseigner à d'autres personnes. On trouve d'ailleurs encore aujourd'hui des ruines de cette école de Tyrannus sur le site archéologique de la ville d'Éphèse. L'impact de la prédication de Paul et les signes miraculeux qui l'accompagnent et qui la renforcent sont tels que un bon nombre de la population éphésienne, ainsi que beaucoup de pèlerins qui sont venus pour adorer, pour célébrer la fête en l'honneur de la déesse Artémis, vont se abandonner justement cette idole pour se tourner vers Jésus-Christ. Alors dans un premier temps, la population des Éphésiens s'était montrée tolérante envers Paul et ses compagnons, mais le désintérêt soudain des pèlerins qui étaient venus initialement pour les bacchanales, ce sont des festivités en l'honneur d'une divinité, souvent accompagnées de débauches. Ce désintéressement soudain des pèlerins va contrarier un certain bijoutier, un orfèvre du nom de Démétrius, qui va voir son chiffre d'affaires baisser considérablement. En effet, ses fabrications de temples en miniature, en argent, ou ses répliques de statues recouvertes d'or ou d'argent, ou encore ses amulettes ou autres souvenirs, vont finalement trouver de moins en moins d'acquéreurs. Et devant ce manque à gagner, cet homme, là, Démétrius, va rassembler tous les commerçants de la ville. Il va ameuter la foule, qui va devenir en furie, et il va l'amener dans cet amphithéâtre en emportant avec lui 2 des collaborateurs de l'apôtre Paul, Gaius, et l'autre c'est Aristarque. Et là, il espère délibérer de cette situation précaire dans laquelle ils vivent. Alors, imaginons quel serait le sort d'Éric si, en plein fief bouddhiste, il prêchait avec puissance l'évangile de Jésus-Christ, ou bien s'il faisait pareil dans les alentours de la Kaaba musulmane. Peut-être que sa situation serait encore plus désastreuse. Paul, ayant appris l'état des choses, va vouloir se rendre sur place au lieu de l'amphithéâtre, mais à cause de la dangerosité, ses disciples, ainsi que, comme nous l'avons lu, des amis anciens magistrats, vont l'en dissuader. Et j'ai eu l'occasion de m'asseoir sur ces gradins. Et en m'asseyant sur ces gradins, j'ai eu une pensée émue envers ces 2 serviteurs de Dieu qui étaient la cible d'une foule en furie qui pendant 2 heures a proclamé le nom de cette idole, de cette déesse Artémis. Grande est la déesse Artémis. Et cela nous amène à penser à, j'ouvre ici juste une petite parenthèse, à tous nos frères et sœurs qui sont dans des situations hostiles, dans des pays hostiles, dans des pays qui sont opposés à l'Évangile et qui, malgré tout, en dépit du danger, en dépit des difficultés, en dépit de la persécution, proclament le nom de Jésus-Christ. Et c'est alors qu'intervient, au verset 35, le bon sens du secrétaire. Le secrétaire, c'était celui qui présidait les cérémonies religieuses, d'une part, et celui aussi qui était responsable des rapports du conseil. Il était investi d'une certaine autorité, puisqu'il parvient à contrôler la foule, d'une part, et invite Démétrius, ainsi que ses collègues, à s'en référer à la justice établie, au proconsul de la ville, pour régler les problèmes qui le concernent. Application. Alors, au-delà, comme je le disais en introduction, de ces explications un peu techniques, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. La première chose qui m'a interpellé dans ce récit, c'est, d'une part, la sagesse et la diplomatie dont Paul fait preuve en annonçant l'Évangile aux païens d'Éphèse. Le secrétaire lui-même est obligé de reconnaître et d'informer la foule qu'il n'y a aucun chef d'accusation valable à faire valoir à l'encontre de Paul et de ses compagnons. Verset 37. Au verset 37, il dit, vous avez, dit-il, amené ces hommes qui ne sont coupables ni de vol sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. En d'autres termes, il ne pouvait être accusé d'avoir volé aucun bien ou aucun ustensile sacré, et il n'avait proféré aucune injure ni manifesté aucun mépris envers leur idole. N'y a-t-il pas justement ici une leçon, une application, un principe à retenir lorsque l'opportunité rare peut-être s'offre à nous de partager notre foi à quelqu'un d'une autre confession. Même si nous sommes convaincus de l'égarement, de l'absurdité de certaines croyances, je pense que nous devons respecter une religion respectée par d'autres. Ainsi, par exemple, on a parlé de l'hindouisme tout à l'heure, dans l'introduction, Francis en a fait référence. Si j'ai cette opportunité de parler à un hindou de Jésus-Christ, ben, je ne vais certainement pas tourner en dérision son attitude cultuelle, sa dévotion, en disant que c'est ridicule de se prosterner devant des statues inertes. Si j'ai l'occasion de partager ma foi à quelqu'un d'une autre conviction religieuse, je ne vais pas non plus manifester du mépris ou dénigrer ses croyances ou ses convictions religieuses. En tout cas, pas dans un premier temps. Au contraire, je vais simplement lui proposer ce que j'ai de meilleur, ma propre expérience. Et quelle est-elle, sinon la bonne nouvelle en Jésus-Christ? Voilà l'essentiel que j'ai à lui communiquer. On peut mentionner un autre exemple dans la vie de l'apôtre Paul, au chapitre 17 du livre des Actes. On le voit cette fois dans la ville d'Éphèse. Et loin de condamner ou de mépriser la spiritualité des Athéniens, que va faire Paul? Eh bien, il va louer la religiosité des Athéniens en tirant même profit d'une inscription qui se trouve près d'un autel sur laquelle il est écrit « Dédié à un Dieu inconnu ». Et il va se servir de cette inscription pour introduire le Dieu des cieux et de la terre. Et on peut lire ces versets dans le livre des Actes, chapitre 17 et au verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Ô Athéniens, je vous trouve extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Et puis, il arrive à l'appel, Paul arrive à lancer un appel aux Éphésiens, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Donc, finalement, l'apôtre Paul ne va pas dénigrer, mépriser les croyances des Athéniens, mais il va se servir finalement de leur religion comme d'un tremplin pour annoncer le Dieu unique, véritable, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre et sauveur en Jésus-Christ. Ce n'est pas en disant du mal d'une autre religion qu'on va faire accepter la vérité. On peut le penser. On peut en être convaincu de l'absurdité de certaines croyances. On peut même en discuter entre nous. Mais ce n'est pas en méprisant ou en dénigrant les croyances que certains considèrent comme sacrées que nous allons faire accepter la vérité. Notre rôle est de présenter simplement l'Évangile. Et cet Évangile lui-même fera son chemin dans les cœurs. Il manifestera tôt ou tard l'erreur, mieux que si nous-mêmes nous témoignons du mépris envers les croyances de certaines personnes. L'apôtre Paul, en Romains, chapitre 1er, verset 16, précise que l'Évangile est une puissance pour celui qui croit. Et l'Évangile est suffisamment puissant, non seulement pour transformer les mentalités et les tempéraments, mais aussi pour transformer les convictions et les croyances erronées. L'Évangile est une puissance. Et il va faire son chemin dans les cœurs. La deuxième chose qui m'a interpellé dans ce texte, c'est quoi ? C'est la conviction, la motivation, la passion que l'apôtre Paul avait pour le salut des âmes. La passion que l'apôtre Paul avait en communiquant l'Évangile. Tout en connaissant les risques, l'hostilité, les difficultés diverses, rien ne pouvait empêcher l'apôtre Paul d'annoncer le pardon et la grâce en Jésus-Christ. Il n'y avait aucun obstacle qui pouvait l'empêcher d'annoncer la grâce et le pardon en Jésus-Christ. La nécessité lui en était imposée. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Et je lis, « Si j'annonce l'Évangile, écrit-il, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. » Et puis il poursuit, « Malheur à moi si je n'évangélise. Malheur à moi si je n'apporte le message libérateur de l'Évangile à toutes ces personnes qui sont perdues. » La nécessité m'en est imposée. C'était une obligation morale pour l'apôtre Paul que de se tourner vers les perdus pour leur annoncer le salut en Jésus-Christ. Pierre et Jean étaient animés par cette même ferveur et par cette même passion lorsqu'ils répondirent devant les membres du Sanhédrin, tribunal religieux juif, leur interdisant de prêcher Christ à Jérusalem. Pierre et Jean ont dit, en Actes 4, verset 20, « Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. On ne peut pas se taire. Nous avons vu par les yeux de la foi. Et nous entendons à travers la parole de Dieu, Jésus, son message libérateur, salutaire. Et nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas ne pas parler. La passion des âmes. La passion des âmes. William Booth, vous connaissez William Booth? C'est le fondateur de l'Armée du Salut. Un jour, il a été invité chez le roi, rien que ça, à souper. Et le roi lui a posé cette question. Quelle est la passion de votre vie? Et William Booth de répondre au roi, la passion de certains hommes, c'est l'or. Pour d'autres, c'est la renommée. Moi, ma passion est pour les âmes, le salut des âmes. La seule passion qui motivait William Booth. Les gens qui nous entourent, frères et sœurs, pour beaucoup d'entre eux, se dirigent vers l'enfer. Est-ce que cela nous laisse indifférents? Est-ce que cela nous laisse de marbre? Est-ce qu'on s'en fiche? Nous sommes dépositaires d'un trésor, le salut en Jésus-Christ. Est-ce que nous conservons jalousement, égoïstement, précieusement ce trésor pour nous-mêmes, ou bien est-ce que nous souhaitons le partager autour de nous? En vacances, j'ai rencontré un Bruxellois. Puis j'ai commencé à entamer une conversation avec lui. Et dans son discours, dans sa conversation, il y avait souvent le mot « destin » qui revenait. Et je lui ai dit « Mais toi, tu es musulman. » Pourtant, il n'y avait rien qui laissait transparaître au niveau de son apparence qu'il était de cette obédience religieuse. Tu es musulman, parce que tu fais référence souvent au mektoub dans ton discours. C'est le mot pour destin en arabe. Et puis, j'ai continué à l'écouter, et après, je lui ai partagé ma foi, et je lui ai dit l'importance de passer par la repentance pour recevoir la grâce de Dieu offerte par Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix. Et tout de suite après que je lui ai dit ça, il m'a dit... Toi, tu es un chrétien protestant évangélique. Je dis, mais puis comment est-ce qu'il sait ça? Ben oui. Parce que ça fait la deuxième fois que j'en rencontre un, et ça fait la deuxième fois que j'entends parler de cette grâce. Et que Dieu continue son chemin dans son cœur. Prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'évangile, c'est prêcher la repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas de grâce. Et prêcher la repentance, tenir ce discours, tenir ce langage, tenir ce témoignage, c'est notre responsabilité. À chacun. Quand avons-nous eu l'occasion de présenter le plan du salut à quelqu'un pour la dernière fois? Quand est-ce qu'on a parlé de Jésus à quelqu'un pour la dernière fois? Et pour terminer, je rappellerai le verset de Luc au chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus était centré sur cette mission. L'apôtre Paul était centré sur cette mission. L'Église d'aujourd'hui est centrée sur cette mission. Et le Seigneur souhaite aussi que chacun de nous soyons, nous sentions concernés aussi par cette mission. Et que Dieu nous aide à considérer l'importance qu'il accorde et que nous devrions aussi accorder pour le salut des âmes.